C'est en octobre 2017 qu'auront lieu les prochaines élections municipales dans 1100 municipalités à travers le Québec, afin de pourvoir 8000 postes d'élus, enfin on dit postes, mais élire 8000 personnes, 8000 citoyens, citoyennes. Donc c'est espéré qu'au lendemain des élections, on va retrouver un grand nombre de personnes en situation de handicap qui siégeront dans les fonctions de maire ou de conseiller. Donc avec nous aujourd'hui, pour discuter de cette perspective, deux personnes engagées en politique, une personne officielle de la Ville de Montréal. Donc d'abord, Lise Poulin, qui a été conseillère d'arrondissement jusqu'en 2013 et qui a fait aussi deux campagnes électorales. Bonjour Lise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Laurent Morissette, activiste bien connu qui aspire à devenir candidat aux prochaines élections municipales, est aussi avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour Benoît.
Et le porte-parole du président des élections municipales de Montréal, Pierre Gélaporte, est avec nous pour qu'on comprenne un peu mieux les possibilités pour devenir candidat.
Bonjour.
Bonjour. Alors, si vous me permettez, je débuterai avec Lise Poulin, puisque c'est les joies du direct, mais elle ne pourra être avec nous pour l'ensemble de l'entrevue. Alors, on va profiter d'elle au maximum. Je lance l'emblée la question, Lise Poulin. À quel point est-ce que c'est important d'avoir des personnes handicapées qui siègent à des postes d'élus?
Bien, je pense honnêtement que c'est prioritaire, parce que veux pas, lorsque j'ai eu la chance de pouvoir siéger sur plusieurs comités de travail au sein de la Ville de Montréal, de même que mon arrondissement de 2009 à 2013, ça a vraiment permis de sensibiliser davantage les autres collègues. Donc, nous étions tous des preneurs de décisions à ce moment-là.
Oui.
Et ça a vraiment sensibilisé, parce qu'on pense connaître la réalité d'une personne en situation de handicap, mais quand on en côtoie une au quotidien, quand on doit changer les endroits où est-ce qu'ils vont se tenir, les rencontres, parce que c'est pas accessible, parce que la salle de bain, on peut pas s'y rendre, parce que le transport, c'est compliqué, mais ça fait en sorte que les gens vivent l'impact de la réalité de la personne en situation de handicap et ont envie davantage de faire des changements.
Bien, c'est précis, vous êtes l'exemple, non seulement pour les gens qui veulent se présenter, mais quand vous êtes élu, vous êtes l'exemple et aussi la manière de comprendre la problématique pour les autres élus. C'est excellent. Mm-hmm. Lise Poulin, vous avez été conseillère d'arrondissement de 2009 à 2013. Vous êtes ancienne candidate pour Union Montréal et aussi pour la Coalition Montréal. Est-ce que vous saviez un jour que vous feriez de la politique?
Bien, en fait, moi, j'ai toujours su que je voulais faire une différence, que je voulais changer les choses, que je voulais améliorer la qualité de vie des gens, mais comment? Non, je ne savais pas. Étant donné que je me suis toujours impliquée dans mon arrondissement, dans ma collectivité, ça a fait en sorte que l'opportunité s'est présentée à moi, puis je me suis dit, effectivement, je voulais changer les choses, je voulais sensibiliser les gens, voilà l'occasion de le faire.
Donc, c'était le moyen de le faire. Faut rappeler aussi aux gens qui nous écoutent que vous avez été la première élue en situation de handicap, élue en situation de handicap. Est-ce que vous trouvez que ça a été difficile d'y arriver?
Oui, c'est difficile. Je vous cacherai pas, puis j'ai souvent dit en entrevue que pour moi, j'avais trois handicaps.
Mm-hmm.
Donc, le premier, j'étais en fauteuil roulant. Le deuxième, j'étais jeune. Et le troisième, j'étais une femme.
Ah oui,
donc,
trois moyens d'être discriminée potentiellement.
Oui, effectivement, parce qu'on s'entend que ce qu'on voit généralement et l'image populaire du politicien, c'est l'homme dans la cinquantaine qui n'a pas d'handicap aucun.
Mm-hmm.
Mais je vous dirais que c'est possible. C'est possible quand on le fait pour les vraies raisons, quand on le fait pour les valeurs collectives, quand on le fait pour vraiment faire une différence auprès des gens. Les gens embarquent dans notre aventure avec nous.
Et qu'est-ce qui manque pour favoriser la participation politique des personnes handicapées, Lise Poulin?
C'est sûr que je ne vous cacherai pas que l'accès, que ce soit l'accès au niveau des déplacements qui doivent être faits rapidement. La ville, je peux parler entre autres de la Ville de Montréal, mais tente d'avoir des locaux qui sont de plus en plus accessibles. Par contre, étant donné qu'on doit se déplacer à d'autres endroits, c'est pas toujours accessible pour une personne en fauteuil roulant. Donc, on doit vraiment essayer d'utiliser notre créativité pour trouver des solutions par rapport à des rencontres qui se tiendraient, par exemple, à des endroits non accessibles ou des trucs comme ça.
Donc, c'est la créativité qui prime chez une candidate en situation de handicap. Lise Poulin, est-ce que vous allez de nouveau briguer un poste de conseillère un jour ou même lors des prochaines élections?
Mais en fait, c'est sûr que je suis en réflexion présentement pour ce qui est de novembre 2017. Ma décision n'est pas encore prise, mais les portes ne sont pas fermées.
C'est un beau suspense que vous nous proposez là. Alors,
Ben oui.
on va savoir dans les prochaines semaines si Lise Poulin sera de nouveau en selle pour un poste de conseillère ou de conseillère d'arrondissement. Pendant qu'on y est, quel conseil vous donneriez à Laurent Morissette là, qui souhaite devenir candidat?
Ben, je pense que le premier conseil, c'est vraiment de s'entourer des gens qui croient en nous, des gens qui sont prêts. Puis si nous, on n'a pas nécessairement la créativité que ça prend pour trouver les solutions, ben d'avoir des gens très créatifs autour de nous, d'avoir des gens aussi qui sont positifs. Parce que je ne vous cacherai pas que, puis peu importe le type d'handicap, ou peu importe le type de candidat à l'élection, je pense que les gens en ont marre du négativisme qui tourne autour. Donc, c'est vraiment d'aller avec un point de vue positif.
Donc, il faut vouloir, puis il faut que ça soit positif. C'est ce que vous dites.
Oui, puis pas nécessairement mettre l'accent sur la différence, mais plutôt mettre l'accent sur les choses qui nous unissent.
Qui nous rassemblent. C'est très bien. Laurent Morissette, vice-président du RAPLIC, vice-président du Forum jeunesse de l'Île-de-Montréal aussi, et surtout aspirant candidat pour Projet Montréal. Vous avez entendu les recommandations de Lise Poulin, qui a été conseillère municipale. Qu'est-ce que vous en dites?
D'abord, je voudrais juste faire une petite correction. Je ne suis plus vice-président du RAPLIC, je suis trésorier.
Ah, bon, OK.
Bon, c'est pas grave, de toute façon, on n'a pas... c'est pas vraiment les rôles qui sont importants au RAPLIC, fait que... Mais oui, j'ai entendu les recommandations de Mme Poulin, puis effectivement, je les prends avec joie. Je veux dire, pour moi, ça va de soi que... Ben, dans ma vie, c'est toujours le positivisme qui me drive, là.
Oui.
Je dis pas que c'est toujours... le soleil puis les l'arc-en-ciel, mais évidemment que moi j'attends de m'entourer de gens qui sont positifs, proactifs puis qui à la recherche de solutions. Je veux dire, le défaitisme n'a pas vraiment de place dans ce que je veux accomplir dans la vie, fait que...
Donc, on le sait déjà, Laurent Morissette, candidat déterminé. En fait, vous aspirez à devenir candidat, c'est pas encore fait. C'est quoi vos premières impressions concernant le processus ou la possibilité de se présenter?
Ça va être, c'est possible, évidemment, mais comme a dit Mme Poulin, il faut vraiment beaucoup avoir de créativité. Justement, pour le soin d'anecdote, j'avais rendez-vous avec le comité électoral le 5 mars dernier, ou quelque chose comme ça, puis mon ascenseur a brisé.
Oui.
Justement, juste avant que j'y aille. Donc là, finalement, j'ai pas pu y aller, puis là... Ça a été vraiment l'hécatombe. Puis encore aujourd'hui, mon ascenseur est brisé. Fait que je suis pris chez moi.
Oui.
Donc, quand on dit faire preuve de créativité, c'est vraiment un exemple flagrant de cette question-là.
Bien, il faut être créatif, mais jusqu'à temps que l'obstacle n'est pas, disons, trop insurmontable. Est-ce que vous trouvez d'ailleurs qu'on en fait assez pour que les personnes en situation de handicap se présentent en politique, Laurent Morissette?
Ah, ben non, mais non, évidemment que non. Parce que, bon, on est encore à discuter de la place des femmes puis de la place des communautés culturelles en tant que candidat et candidate. Et c'est très valable de discuter de cette question. Mais donc, si on en est à discuter de cette question fondamentale de la représentativité des communautés culturelles, il faut imaginer où est-ce qu'on en est quand on parle des personnes à mobilité réduite, là, avec en situation de handicap. Là, on est encore très loin. Là.
Oui, comme groupe, les personnes en situation de handicap sont moins visibles.
Ah oui, c'est ça. On a moins notre place dans le domaine public. On se retrouve moins dans le domaine public. Dans le domaine culturel, on est souvent confiné à des rôles humoristiques, par exemple. Donc, je dirais, les partis n'auront pas le réflexe automatique de dire « Ah, cette personne-là est impliquée, elle veut changer la vie, alors on va la recruter. »
Oui. Puis donc, est-ce que vous trouvez qu'il y a des efforts de recrutement qui sont faits ou vous devez vous battre, Laurent Morissette, pour qu'on considère votre candidature?
J'ai été bien accueilli au sein du parti pour lequel je tenterai de briguer
l'investiture
pour être candidat. Mais je peux concevoir effectivement que les gens doivent se battre effectivement pour être reconnus puis être considérés parce que Je veux dire, notre vie, c'est une bataille constante. Donc, je veux dire, on ne va pas se le cacher. Il n'y a pas beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont, par exemple, des hommes d'affaires influents ou des femmes d'affaires influentes avec beaucoup de moyens financiers, beaucoup de connexions, etc. Donc,
oui, mais comme groupe, il y a quand même beaucoup plus de pauvreté, même si ça tente à changer. Reste que le salaire ou le revenu moyen d'une personne handicapée est plus faible.
C'est ça. Donc,
comme une personne minorisée ou issue des communautés culturelles, par exemple.
Oui, effectivement. Effectivement, la situation économique des personnes handicapées, par exemple, peut justifier aussi le fait qu'elle n'a pas nécessairement les mêmes connexions, les mêmes... J'irais même au-delà de ça. Elle n'a pas les mêmes opportunités puisque le transport n'est pas accessible de la même façon.
Oui.
Donc, elle n'a pas accès aux lieux culturels ou elle n'a pas souvent accès aux événements montréalais, par exemple, parce que dans des commerces ou des lieux ne sont pas accessibles. Donc, elle n'est pas susceptible de connaître les gens qu'il faut pour...
Soyons même pragmatiques, Laurent Morissette, je suis désolé de vous interrompre. Même rencontrer les citoyens qui sont au haut des escaliers, là, c'est quand même tout un défi. Hein?
Ah oui, je vous mentirais pas en disant que j'ai réfléchi à cette question avec le sourire, évidemment. Mais moi, je considère que mais ça, c'est suite à ce que quelqu'un m'a dit récemment. Ça pourrait être un atout pour moi parce que si j'ai un bénévole qui m'accompagne, qui monte les marches puis qui dit à la personne, venez descendre, rencontrer mon candidat, probablement que la personne va comprendre un petit peu plus quel est
votre message.
Quel est l'enjeu parce que je vais lui dire, écoutez, vous voyez, vous, ça pourrait vous arriver que vous ayez besoin de trucs pour pallier à
vos handicaps,
etc. Puis vous voyez comment je suis déterminé parce que je suis là au bout des marches et je veux vous parler.
Très bien. On sent déjà votre prochain slogan de campagne. Lise Poulin, vous devez nous quitter bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose juste avant de nous quitter?
Bien, en fait, je pense que ce qu'il faut rajouter, c'est simplement que l'importance d'avoir des gens qui représentent chaque citoyen de notre ville, de notre village, hein, parce qu'on s'entend que les élections municipales seront partout. Donc, mais de s'assurer d'avoir des gens qui nous représentent. Puis quand on fait notre choix en tant que citoyen, parce qu'on est citoyen avant tout, hein, moi aussi je suis une citoyenne, il faut s'assurer de faire un choix de quelqu'un qui saura nous représenter de façon adéquate.
Très bien dit. Merci beaucoup, Lise Poulin. Je pense que Laurent Morissette agrée. Merci, Alice Poulin.
Merci, au revoir.
Au revoir. Donc, je me retourne maintenant vers M. Laporte, qui est porte-parole du président des élections à Montréal. De manière officielle, M. Laporte, comment les personnes doivent soumettre leur candidature pour les prochaines élections? Comment elles sont reconnues, leur candidature est effective?
Bon, d'abord, il est bientôt pour le faire, puisque la période de mise en candidature, c'est du 22 septembre au 6 octobre prochain. C'est le début de la période électorale comme telle.
Mais il faut quand même se préparer un peu.
Il faut quand même se préparer. J'écoutais M. Morissette qui visiblement est en train de se préparer sérieusement et c'est très bien. Cette période-là, donc, ça suppose effectivement pour les candidats de remplir une déclaration de candidature, de recueillir des signatures, dépendant du nombre du poste qu'ils postulent. Si vous êtes candidat à la mairie de Montréal, c'est au moins 200 signatures. Pour des postes de conseiller d'arrondissement, ça peut être un peu moins, 25, 50, ça dépend toujours du nombre d'électeurs que vous représentez. Et donc, c'est la première démarche qui doit être faite, effectivement.
Et c'est en septembre.
C'est en septembre. Dès le 22 septembre, la période de mise en candidature commence le 22 septembre, se ferme le 6 octobre à 16h30. Et durant cette période-là, effectivement, il y a au moins 25 bureaux sur le territoire où les gens pourront aller déposer leur candidature avec les différents éléments d'information qui sont requis avec, dont notamment des signatures.
Et donc, ça, c'est évidemment pour les élections à Montréal. Mais c'est quoi les instances qui sont en cause? Là? Quels sont les organismes qui s'occupent des élections à Montréal?
Bon, à Montréal, d'abord, le greffier de chaque municipalité, c'est vrai à Montréal, c'est vrai à Québec, c'est vrai dans les autres villes, et d'office le président d'élection à chaque 4 ans. Donc, il met en place un bureau des élections qui est en train, nous, de se constituer. Au moment où on se parle, il y a déjà quelques personnes qui sont à l'œuvre. Ça va grossir au fur et à mesure qu'on approche de la date, je vais dire fatidique, mais la date du 5 novembre, du jour des élections.
Le jour avant que vous allez vous reposer.
On va se reposer quelques jours plus tard.
Ah, oui, c'est ça.
Alors, le 5 novembre, la date des élections, pour vous donner une idée, pour l'emploi pour Montréal, ça représente presque 13 000, 14 000 employés qui travaillent. Donc, des employés d'un jour, des gens qui sont des scrutateurs, des secrétaires de bureau de vote, des gens qui assurent le transport de choses. Il y a énormément de monde au travail. Ça commence tout petit, ça finit très gros. Et donc, pendant cette période-là, ben, il y a différentes étapes. C'est balisé par la loi. On n'a pas... la loi est très précise quant aux dates. Donc, je vous disais tantôt, du 22 septembre au 6 octobre, la période de mise en candidature, ça correspond au délai prévu dans la loi. Et donc, à partir de ce moment-là, aussitôt qu'une demande de candidature a été reçue, que tous les éléments sont là, cette demande-là devient officielle, devient publique.
Parfait.
Donc, la candidature est désignée à ce moment-là.
Plongeons-nous dans les élections maintenant, M. Laporte. Quelles sont les dépenses qui sont considérées? Comment on organise ça au niveau des dépenses?
D'accord, on parle des dépenses électorales?
Des dépenses électorales,
d'accord.
Ouais.
Alors là, il y a des principes de base que je vais vous expliquer. Par ailleurs, je vous dis tout de suite, les dépenses électorales sont validées, sont reconnues par le directeur général des élections et pas par les présidents d'élections localement.
Ah, donc.
Ça reste quand même, ça c'est une modalité, là, mais c'est important de le savoir. Mm-hmm. Écoutez, une dépense électorale, de façon générale, il y a peut-être quatre principes de base. Donc, c'est toute dépense qui vise à favoriser directement ou indirectement, ou même défavoriser l'élection d'un candidat ou celle des candidats d'un parti. Donc ça, c'est une chose. Deuxième élément, les dépenses qui visent à diffuser ou combattre le programme ou la politique d'un candidat ou d'un parti. Donc c'est toujours sur le contenu. Approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou un parti. Alors on imagine un peu là, les débats qu'il peut y avoir au sein d'une campagne électorale. Et donc, des dépenses électorales peuvent être acquises, ne serait-ce que pour produire des tracts, participants, des vidéos, etc. Mm-hmm. Approuver
tout
ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti ou un candidat. Donc, c'est le principe de base.
Okay.
Évidemment, ça peut supposer pour un candidat de se louer un local, par exemple, d'avoir des ressources, peut-être s'il a les moyens d'acheter de la publicité dans son hebdo de quartier, etc. Donc, c'est ça, ce type de dépenses-là. Il y en a d'autres, évidemment, possibles.
Mais donc, vous êtes peut-être au fait, mais il y a des dépenses qui sont directement reliées au handicap. On pense à l'accompagnement, une rampe d'accès dans un local, l'interprétariat peut-être, des outils de communication de type walkie-talkie, puisque, entre autres, Monique Trudel, qui a été candidate déjà des élections municipales et qui est en fauteuil, l'a utilisé, elle avait besoin du walkie-talkie pour parler aux concitoyens. Est-ce que ça sont considérés au même titre que les dépenses électorales?
Écoutez, je le disais tantôt, c'est le directeur général des élections qui nous donnerait l'heure juste là-dessus. À prime abord, je vous dirais que oui, des dépenses qui sont faites à partir des principes que je vous énonçais tantôt. Si, par exemple, pour communiquer avec des citoyens, on a besoin d'un système de communication qui est autre que de se parler de bouche à oreille comme on le fait,
ouais.
Ben, j'imagine que ça peut être effectivement admissible.
Okay.
Est-ce que vous pensez
qu'il y a de l'ouverture pour considérer ces moyens-là de pallier au handicap comme étant différents des dépenses habituelles?
Ben ça, il faudrait vraiment avoir avec le directeur général des élections. Je vous avoue, je ne voudrais pas m'avancer. C'est intéressant.
Non, je comprends tout à fait.
Mais quand même, je peux comprendre. Vous mentionniez, par exemple, la rampe d'accès tantôt. Mm-hmm. Bon, j'imagine que si vous êtes un candidat, vous êtes un candidat en situation de handicap, vous louez un local, effectivement, pour votre campagne électorale, on peut présumer que dans le bail de location que vous aurez, on va prévoir qu'il y a une rampe d'accès. Ou s'il n'y en a pas une, qu'il y en a une qui sera temporaire, ça sera avec le propriétaire dans la relation, mais ça sera dans vos dépenses électorales, effectivement.
Okay. Donc, vous entendez bien, ben, Lise Poulin n'est plus avec nous, mais Laurent Morissette, je pense qu'on est déjà là, une des premières revendications, si on se présente aux élections, que l'argent pour pallier les handicaps ne sera pas considéré comme des dépenses électorales. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent?
Bien, évidemment, je veux dire que ce ne soit pas considéré comme une dépense électorale parce que, bon, j'imagine qu'on a une limite de dépenses admissibles. Donc,
voilà.
C'est sûr que si là, louer une rampe coûte 500 $ ou je sais pas quoi, puis qu'on a une limite de 2000, 3000, 4000 $ à un moment donné, ça...
Ça finit par paraître.
Oui, ça apparaît, là, je veux dire.
Bon. Monsieur Laporte, malgré cet écueil, on se renseigne où si on souhaite se présenter aux prochaines élections municipales ou même si on veut avoir plus d'informations sur comment le faire?
Déjà, dès maintenant, il y a le site web d'Élections Montréal. Vous avez qu'à googler Élections Montréal.
Élections Montréal.
Et vous allez vous y rendre.
Bien.
Il y a déjà plein d'informations que vous allez retrouver là-dessus. Évidemment, au fur et à mesure qu'on va approcher de la période électorale, cette information-là va s'enrichir. Il y a des éléments neufs qui vont entrer. Donc, vous aurez là-dessus les renseignements, comment on peut faire pour devenir candidat, etc., etc. Tout va se retrouver là-dessus.
Parfait. Et donc, on va visiter Élections Montréal. On emprunte Google pour le trouver, Élections Montréal.
On peut prendre Google. Alors, on fait élections-montréal.com. Enfin, bref, vous allez y arriver d'une façon ou d'une autre assez facilement.
Merci pour votre optimisme. Donc, était avec nous Lise Poulin, qui fut la première femme en situation de handicap à être élue à Montréal. Merci de votre temps, Lise Poulin. Laurent Morissette, à qui on souhaite bonne chance pour les prochaines élections. Bonne chance, Laurent Morissette.
Merci, Benoît.
Et M. Pierre G. Laporte, porte-parole du président de l'élection à la Ville de Montréal. Merci beaucoup, M. Laporte.
Ça m'a fait plaisir.